toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec Francky et Christophe à la technique. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Bienvenue, excellente journée à vous tous qui nous suivez dans cette émission L'économie en direct sur IDFM Radio, la radio valdoisienne en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Revue générale de l'actualité en France, sensibilité à la sécurité pour les JO 2024, rencontre avec une agence en communication qui a le vent en poupe et intelligence artificielle. Aujourd'hui, mardi 30 mai, un programme varié nous attend pour ces 90 minutes à venir et pour lequel, avec un plateau magnifique, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Meurant. Bonjour monsieur le sénateur.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Sénateur et conseiller départemental du Val-d'Oise, apparenté au groupe Les Républicains, membre depuis un an de Reconquête, avec nous pour décrypter plusieurs sujets qui alimentent et n'ont probablement pas fini d'alimenter une actualité en pleine ébullition. À vos côtés, Jérôme Morge. Bonjour Jérôme.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans nos studios. Campus des métiers et des qualifications, directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité, un département de CY Cergy Paris Université basé à Argenteuil. Avec nous pour nous présenter le nouveau projet JOP 3000 auquel le campus sécurité d'Argenteuil prend part en vue des Jeux Olympiques 2024. Un projet ambitieux dont nous avons hâte d'en savoir plus dans quelques instants. À vos côtés, Catherine et Eric Duchesne. Bonjour Catherine.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Bonjour Eric.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Très heureuse de votre venue chez IDFM Radio. Tous deux fondateurs et dirigeants de Principe Actif, une agence de communication spécialisée dans le packaging des spiritueux et parfums, avec des réalisations assez prestigieuses. Une activité dont nous avons envie d'en savoir plus. Et Catherine, je précise au passage que vous êtes aussi juge consulaire au tribunal de commerce de Pontoise.
C'est ça.
Et à vos côtés, Philippe Piton. Bonjour Philippe.
Bonjour Jacqueline, bonjour tout le monde.
Ravi de vous revoir à l'économie en direct. Président de Dynactive, un réseau d'entreprises implantées sur le territoire de la communauté d'Aglo Plaine-Vallée. Avec nous pour parler intelligence artificielle, ses opportunités, ses risques. Et vous serez accompagné également pour cela de Fabien Giraud à vos côtés.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Bonjour Fabien, directeur du cabinet groupe GK2 PFG et vice-président de Dynactive. Bienvenue et à chacun et merci d'être les invités en direct de cette émission. Avant de vous donner la parole, le mardi matin, nous avons notre rituel instant saveur avec notre expert Bruno Vigoureux, garant toujours d'une recette appétissante. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous.
Vous remarquerez que ce matin encore, vous avez dans le studio un auditoire de qualité.
Comme toutes les semaines, hein, je préciserai.
C'est vrai. Alors Bruno, qu'est-ce que vous nous avez concocté ?
Alors, avant de vous dire ce que je vous ai concocté, je dois vous avouer quelque chose. Je suis encore sous le choc. Oui, je ne suis pas prêt d'oublier cet instant, samedi matin. Vous vous souvenez, Jacqueline ? Ne me dites pas non. Hein. J'étais à Enghien, au marché, en train de faire la queue devant un commerçant. Quand vous avez accouru vers moi, resplendissant, toute de bleu vêtue, votre beau regard dissimulé derrière vos lunettes de soleil. Et là, vous m'avez fait cette déclaration que je n'osais plus imaginer. Ah, Bruno, je viens de faire ta recette de jarret de veau au citron. Quel régal! Aussitôt, j'étais envahi de bonheur. Rendez-vous compte. Enfin, j'avais votre reconnaissance. Ma journée ne pouvait être que bonne et j'ai poursuivi mon marché tranquillement avec mon petit sourire qui ne me quittait plus. Alors, qu'en sera-t-il avec la recette que je vais vous proposer maintenant? En tout cas, sachez que j'ai eu les félicitations du jury, c'est-à-dire de mon épouse, qui m'a dit que c'était excellent. Et si elle le dit, c'est vrai que lorsque j'ai vu cette recette, c'est dans un des nombreux journaux auxquels je suis abonné, j'ai été interpellé. Il y avait écrit tout simplement « un délice ». Remarquez, d'un autre côté, c'est rarement écrit « dégueulasse ». Alors, je me suis lancé dans cette jolie recette, séduit par son côté asiatique. C'est vrai que j'ai un faible pour cette cuisine-là. Alors aujourd'hui, on va donc faire des aubergines braisées au porc. Alors avant de vous lancer dans cette recette, il est préférable d'avoir un hachoir dans votre cuisine. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez couper vous-même la viande en petits dés. Pour faire ce plat, pour 4, il vous faut 500 g d'aubergines, longues ou normales, 400 g de porc haché donc. Vous pouvez choisir soit de l'échine désossée, soit de la poitrine, moi j'avais pris de l'échine. 4 grosses gousses d'ail, 3 cébettes, 40 g de gingembre frais, 15 g de sucre, 4 cuillères à soupe de sauce soja, de l'huile végétale, du sel et du poivre. Alors dans un premier temps, vous rincez les aubergines et vous les coupez en morceaux réguliers, mais pas trop petits. Vous saupoudrez les morceaux de sel et vous les laissez dégorger dans une passoire pendant une trentaine de minutes. Vous épluchez et vous hachez l'ail, vous pelez le gingembre. Pour cela, vous prenez, je vous rappelle que c'est mieux comme ça, vous prenez une petite cuillère plutôt qu'un couteau, et avec le bord de la cuillère, vous épluchez le gingembre et vous le coupez en petits dés. Vous émincez les cébettes et dans un bol, vous mélangez le sucre et la sauce soja. Au bout de 30 minutes, vous récupérez les morceaux d'aubergine et vous les essuyez dans un torchon ou avec du papier absorbant. Dans une grande poêle, vous faites chauffer 5 cuillères à soupe d'huile et vous faites dorer les aubergines sur toutes les faces pendant 8-10 minutes environ, et sur feu vif, et vous réservez sur du papier absorbant. Dans la même poêle, vous rajoutez une cuillère à café d'huile, puis vous faites dorer l'ail et le gingembre. Lorsqu'il commence à colorer, vous ajoutez la viande et vous mélangez bien pour détacher les morceaux de viande. Vous ajoutez la sauce, vous poivrez généreusement et vous mélangez de nouveau. Vous pouvez maintenant remettre les aubergines dans la poêle avec 12 centilitres d'eau. Vous baissez le feu et laissez cuire pendant 10 minutes environ. Le but du jeu, c'est d'avoir des aubergines bien tendres. Pour le savoir, un seul moyen, vous piquez les aubergines avec la pointe d'un couteau et elle doit s'enfoncer sans problème. Voilà, c'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à ajouter sur le dessus des cébettes. Pour accompagner ce plat, j'avais fait un riz blanc que j'avais servi dans des petits bols. Et c'est vrai que ce plat est un véritable petit délice. Avant même de le déguster, vous allez adorer les odeurs qui se dégagent dans votre cuisine. C'est une recette simple et savoureuse. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. Ah, j'oubliais, Jacqueline, si vous me cherchez samedi prochain, je serai au marché à Enghien. Allez, bonne cuisine à tous, bon appétit et à très bientôt. Au revoir.
Merci Bruno, je vais être obligée de vous chercher maintenant dans le marché. Merci pour cette recette qui, une fois de plus, semble être une vraie régalade. Merci. Excellent. À la semaine prochaine.
Oui.
Merci Bruno.
Bonne
au revoir.
Émission.
Bonne journée. Au revoir.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio avec ce matin de nombreux invités. Sébastien Meurant, sénateur et conseiller départemental du Val-d'Oise. Jérôme Morge, directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications d'excellence des métiers de la sécurité, un département de CY Cergy Paris Université, basé à Argenteuil. Catherine et Éric Duchesne, fondateur et dirigeant de l'agence de communication Principe Actif. Philippe Piton et Fabien Giraud du club d'Inactive. Sébastien Meurant, encore merci d'être avec nous ce matin.
Avec plaisir.
Après des études à l'école des hautes études politiques et sociales, puis Paris School of Business, vous occupez depuis 2001, vous avez occupé en 2001 un mandat de conseiller municipal. En 2008, vous êtes élu maire de Saint-Leu-la-Forêt. Et aujourd'hui, depuis 2017, vous êtes sénateur et conseiller départemental du Val-d'Oise. Un parcours qui traduit très tôt votre goût pour la chose publique, Sébastien Meurant.
Oui, j'ai été passionné par la politique dès le lycée. Donc ça remonte quelques années maintenant. Mais j'ai commencé dans le privé. Mon papa était entrepreneur dans le bâtiment. Et j'étais amené à baigner dans le monde de la petite entreprise, de la moyenne entreprise, très tôt. Et la politique m'a pris effectivement dès le lycée. Donc voilà, avec quelques décennies maintenant.
Une vraie vocation. Réforme des retraites, loi à venir sur l'immigration, crise immobilière, et si nous avons le temps, loi SRU et notre département grand oublié du Grand Paris. Beaucoup de sujets sur lesquels vous souhaitez revenir et apporter votre éclairage. Alors d'abord, la réforme des retraites, Sébastien Meurant.
Alors la réforme des retraites. J'aurais préféré que l'on réforme d'abord le travail, la question du travail, la question de la formation professionnelle, avant de parler des retraites et avant de totémiser l'âge de départ en retraite. Donc moi, je fais partie de ces sénateurs qui ont voté contre. Je pense que ce n'est pas le moment. Moi, je suis donc sénateur en commission des finances. Et les 13 à 17 milliards de ressources supplémentaires prévues à horizon 2030, il y avait bien d'autres moyens que cela pour les récupérer. Cette réforme des retraites, à un moment où le pays est traversé d'une crise sociale réelle, majeure, d'une crise liée à l'inflation, moi je suis effaré de voir que dans notre pays, de plus en plus de personnes ont du mal à boucler les fins de mois jusqu'à diminuer leur consommation de viande, de poisson. Bruno est parti, c'est quelque chose qui me paraît assez impensable. Donc faire une réforme de ce type technocratique mal ficelé, puisqu'au départ la volonté était bon, de faire travailler les gens plus, mais de la contrainte de faire travailler ceux qui travaillent déjà plus, la question des plus de 50 ans au chômage, la question des études d'impact par rapport à ça, de basculer de des retraites aux caisses de chômage n'ont pas été effectuées. Donc moi, c'était une approche qui me semblait une mauvaise approche, ce qui m'a amené à voter contre, à expliquer qu'on aurait tout intérêt à lutter contre la fraude d'abord, à faire en sorte, en deuxième temps, de lutter contre la fraude, d'abord faire en sorte que les personnes de plus de 50 ans, ben, pour quelles raisons on se retrouve au chômage. Il y a plein d'incitations pour les entreprises. L'État ne montre pas l'exemple. Donc il y avait, pour moi, c'était une réforme technocratique mal ficelée qui pénalisait ceux qui avaient commencé à travailler dans un premier temps de bonne heure, qui auraient dû travailler plus de 43 annuités. Vraiment une mauvaise réforme à un mauvais moment. Donc ce qui m'a amené à voter contre. Il y a d'autres solutions que toujours de contraindre et avec des faux arguments. Budgétairement, c'était complètement faux. Hein. Le corps l'a écrit, il suffisait de lire, de décortiquer. Il y a d'autres moyens pour pouvoir faire en sorte que la question, c'est la question de la création de richesse et du taux d'emploi, mais sur toute une vie. Et plutôt que la contrainte, moi je suis pour les incitations. Il y a plein de freins à l'emploi, notamment des seniors à lever. Il y a la question évidemment de l'emploi des jeunes. Et par rapport aux autres pays, c'est la question en fait du taux d'emploi tout au long de la vie qui est plus faible que certains autres pays. Mais nous, nous avions déjà des normes, des lois qui avaient été votées sur les 43 annuités, qui obligeaient évidemment tous les gens qui ont fait un peu d'études à partir de 21 ans, ça quand même concerne beaucoup de personnes, bah vous rajoutez 43 annuités, on était déjà aux 64 ans. Donc avoir crispé le pays pour cet âge de départ obligatoire de 64 ans, eh bien c'était à mon avis vraiment une faute politique. Et d'ailleurs, ces questions des retraites, on va la retrouver au mois de juin dans les rues, pour en fait une budgétairement quelque chose qui en fait est très très minime. Et il faudra remettre sur le métier encore cette question du financement, de l'équilibre de nos systèmes par répartition. Et également, ça demanderait toute une émission, hein, mais notre système par répartition ne tient oui. que parce qu'il y a des gens qui commencent à travailler. Donc il y a la question de natalité, évidemment, avant tout à traiter. Il y a la question de la capitalisation. Il y a la question de... En fait, c'est une réforme qui est vraiment vue par le petit bout de la lorgnette. Alors que la question majeure, c'est la question de la création de richesse et du partage de cette richesse. Et il y avait bien d'autres façons, à mon avis, de l'aborder.
Et que dire de la proposition de loi du groupe Liotte qui visant à abroger le texte qui doit être débattu le 8 juin après une 14e journée de manifestation.
Mais c'est une question qui touche à tous les Français, donc c'est une question qu'on ne peut pas faire en catimini, en contraignant le Parlement. Tous les alors je vais pas parler des artifices, mais tous les moyens pour contraindre le Parlement ont été utilisés à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, je suis pour une démocratie au grand jour qui prend le temps sur les sujets majeurs de discuter, d'essayer de convaincre, de persuader les Français que cette réforme est bonne. Donc, le temps est nécessaire et la pédagogie et la répétition sont des sujets qui sont absolument nécessaires. Là, moi, j'ai vécu au Sénat, donc sous un temps contraint, mais l'Assemblée nationale, même pas examiner la totalité du projet de loi, c'est quand même quelque part une façon de forcer le Parlement et un viol démocratique. Parce que l'utilisation de tous les articles du 49.3, du 47.1, enfin là je ne rentre pas parce qu'il y a une dizaine d'articles qui ont été utilisés pour la première fois
C'est la première fois avec ces questions qui, sur le plan constitutionnel, sont vraiment extrêmement limites, de faire rentrer dans une loi de finances cette question des retraites. Et toute une partie, vous avez vu, a été censurée par le Conseil constitutionnel, notamment sur l'index senior. Enfin, il y a des sujets qui étaient, entre guillemets, plus favorables, positifs. Ces sujets-là ont été sanctionnés parce que, évidemment, ça ne rentre pas dans le cadre d'une loi de finances. Donc, véritablement, pour pouvoir faire adhérer, on ne fait pas on gouverne pas contre le pays. Et légitimement, et on voit semaine après semaine, mois après mois, que les Français ne sont pas persuadés de l'intérêt de cette réforme. Et ils ont raison.
Oui, alors comme vous dites, il faudrait carrément presque une émission pour en parler. Bon, il y a quand même eu cette hystérisation des débats au Parlement qui ont dénaturé probablement ce débat.
À l'Assemblée nationale, c'est vrai que le comportement de certains députés sont regrettables dans l'image qu'ils donnent du Parlement français, de la représentation nationale. Néanmoins, le pouvoir a alimenté ce mécontentement, cette polémique. Et encore, la Première ministre vient de faire des déclarations concernant une partie de l'électorat qui sont vraiment complètement hors normes et qui devrait en fait montrer l'exemple. Et l'État devrait montrer l'exemple. Sur cette question des retraites. Et là, je peux vous citer un certain nombre d'administrations qui ne montrent pas l'exemple.
Deuxième sujet, Sébastien Meurant, la loi immigration à venir cet été. Alors, je crois que Gérald Darmanin veut durcir les mesures. Le soutiendrez-vous ?
Là, j'attends de voir ce qui est proposé. Vous savez, donc ces gouvernements successifs, ce président, ont dit tout et son contraire de tout sur cette question, qui est une question aussi essentielle, car elle touche à l'identité, elle touche à la sécurité, elle touche à la survie de notre État-providence. Vous avez Mayotte qui préfigure ce que pourrait être demain la France, et il y a un tel différentiel de niveau de vie à Mayotte qu'évidemment les Comoriens veulent venir accoucher et se faire soigner à Mayotte. Et en France, eh bien c'est un peu le même sujet. En France, on a tous les ans maintenant, depuis que ce président est élu, plus de 500 000 personnes légalement qui arrivent. 500 000 personnes, c'est plus que la ville de Lyon. Et je parle que de ce qui est légal. Et après, ils viennent pour différentes raisons, mais ils viennent parce que s'ils savent qu'ils viennent en France, ben ils sont soignés, on essaie de les loger, on essaie de les accueillir. Simplement, c'est que c'est pas faisable. 500 000 personnes, il faut pouvoir les accueillir, il faut pouvoir les loger, il faut pouvoir les soigner. Et nos lois sont violées depuis des décennies maintenant, mais ce gouvernement a signé en 2018 un accord, le pacte de Marrakech, pour organiser l'immigration régulière, etc., etc. Donc on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Et il y a ce que je trouve terrible, et ce que les médias relaient pas suffisamment, est-ce que la classe politique ne relaie pas suffisamment, c'est que l'État, en laissant faire, est complice des trafiquants d'êtres humains. Et ça, c'est aujourd'hui le marché de l'immigration. Il y a un marché de l'immigration. Ces pauvres gens, on leur fait croire qu'ils vivront mieux en France ou en Occident, ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde. Et après, il y a effectivement la partition du territoire, des termes utilisés par un ancien président de gauche. Il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui parlait de vivre côte à côte et bientôt face à face. S'il n'y a pas une prise de conscience, on va vers une libéralisation de nos sociétés, on va vers une explosion de la délinquance et de l'insécurité qui est liée grandement, évidemment, à l'immigration et notamment à des modèles socioculturels qui font des civilisations qui se sont affrontées, notamment par rapport à la place des femmes, par rapport à la place de... Enfin, la question de l'islamisation de société. Ce sont des sujets, c'est pareil, qui sont... très fondamentaux, c'est des sujets très sensibles, mais si on n'en parle pas sereinement, et ce gouvernement et ce président n'en parlent pas sereinement. Donc ce qui va être proposé, je n'en sais rien, on a tout et son contraire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, depuis 2017, je suis rapporteur de la mission spéciale immigration, asile, intégration. Je suis incapable de vous dire combien coûte l'immigration. Je suis par contre capable de vous dire que les fameuses OQTF sont pas respectées, en fait que la loi française n'est pas respectée et que l'asile n'est pas respecté. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne fait pas la différence entre des gens qui viennent en France pour des questions effectivement légitimes d'asile, des personnes à protéger, des personnes qui veulent s'intégrer puis s'assimiler à la nation française, qui veulent amener quelque chose à la nation française. Et la France a toujours été un pays ouvert sur le monde, de par son histoire, de par sa géographie. Et là, ce sujet-là qui mériterait d'être apaisé, qui mériterait le temps, qui mériterait, pour moi, c'est un sujet de référendum, bien entendu, mais d'un référendum qui est sérieux, des questions qui sont fermées, qui sont précises, après une discussion sereine. Et là, c'est un sujet politique, politicien, exploité par les uns et par les autres. Et c'est vraiment dommage, car c'est un sujet qui est crucial pour la France, mais pour l'Europe aussi, les accords de Schengen, enfin, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, extrêmement qui touche tout le monde et qui touche nos communes, puisque maintenant, là, les élus n'ont peut-être pas vu, mais il y a des parlementaires Horizon et En Marche qui veulent imposer dans la loi SRU une part pour accueillir les migrants. Donc là encore on repousse, on fait semblant de faire, et Gérald Darmanin qui a dit tout et son contraire, qui est ministre de l'Intérieur, qui est responsable des OQTF qui sont tombés à 5-6%, obligation de quitter le territoire français suite à des décisions de justice. Ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'ils sont au pouvoir. Les résultats n'ont jamais été aussi mauvais.
Bien, donc encore une affaire à suivre à travers le Sénat. Troisième sujet, le secteur de l'immobilier est en grande difficulté. Des taux d'intérêt qui remontent, des constructions de logements neufs en chute libre, des transactions plus rares. Une crise immobilière dont, je dois dire, on n'entend pas tant parler que ça.
Parce que tous les professionnels ont commencé à alerter l'État, le pouvoir, vraiment tous les professionnels, les responsables des propriétaires privés, la FFB, enfin tous les professionnels. Quand le bâtiment va, tout va, je crois que c'est un adage répéter. Vrai. Et là, les objectifs de construction de près de 500 000 logements s'éloignent. Et l'État n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation. Et pourtant, dans la pyramide de Maslow, le logement apparaît très, très tôt, et pour loger les personnes liées à au vieillissement de la population, à la décohabitation, au divorce, les divorces notamment suite à cette période de Covid qui ont augmenté. Et également aussi les périodes qui est question de l'immigration, puisqu'on ne peut pas accueillir 500 000 personnes sans les loger, évidemment. Et également les contraintes supplémentaires sur le logement, les normes, les diagnostics immobiliers. Je ne sais pas si les Français se rendent compte que d'ici à 2025, plus de la moitié de l'habitat parisien va être déclaré insalubre.
Oui.
Plus de la moitié. Comment va-t-on loger les étudiants? Comment va-t-on loger les Français? Dans certaines stations de montagne, c'est 90% des logements qui sont insalubres, qui vont être insalubres. Et puis que tous ces diagnostics, tous ces travaux à faire ont un coût. Moi, j'ai des copropriétés, de gens qui sont propriétaires, qui sont fragilisés, qui ne peuvent pas payer les travaux. Et après, il faut trouver des professionnels. Et puis après, vous avez ces ruptures de tuiles. Vous avez tout un tas de choses, de ruptures de matériaux. Donc là, la question du logement, c'est pareil. C'est une question qui est majeure, qui n'est pas traitée dans sa globalité. La question du statut des propriétaires bailleurs privés. Il y a tout un tas de sujets qui ne sont pas traités. L'État est resté sur le mythe de logement vacant. Et vous avez bientôt, avant le 30 juin, l'obligation, comme pour chaque propriétaire, de déclarer tous ces biens, de déclarer qui les occupe, de déclarer les surfaces. Il y a un contrôle énorme, et là, je vois derrière tout ça poindre des amendes ou des pénalités ou des obligations de remise en ordre que certaines personnes ne pourront pas. Ce que j'ai compris, notamment des rencontres avec l'État, ce qui est affolant, c'est une volonté de casser le marché de l'immobilier en partant du principe que les prix sont trop élevés. Certes, les prix sont trop élevés, c'est une réalité. Et qu'en cassant le marché, en mettant des diagnostics, des normes supplémentaires, les gens vont être obligés de vendre, de mettre des biens sur le marché, et donc faire baisser mécaniquement les prix. Sauf que la France, c'est un grand pays. Il y a des micro-marchés. À Enghien, je pense pas que les prix vont s'effondrer, ou dans nos régions, je pense pas que les prix vont s'effondrer. Par contre, dans d'autres territoires français, Et ça renvoie à cette question majeure de la politique du logement et de l'aménagement du territoire. Là, on parlait tout à l'heure de bouchons comme jamais. Eh bien, il faut créer de l'activité partout sur le territoire. J'étais dans le cadre des missions entreprises du Sénat à Vierzon. Vierzon, ville il y a une vingtaine d'années avec 35 000 habitants, il y a plus de 25 000 habitants. Je peux vous dire que les logements sont pas chers. Je peux vous dire que là, il y a des logements vides. Mais la question du logement est inséparable de la question de l'aménagement du territoire, donc la question du travail, la question de la formation. Donc là encore, une vision, mais par la contrainte, par la norme, et une vision qui est terrifiante car c'est une vision idéologique, donc on est très très loin du réel. Et si tous les professionnels alertent sur la crise à venir, mais comme le président de la République a dit que nous avions créé, je sais pas qui, un paradis pour investisseurs, eh bien, il y a Jupiter et ses ministres qui n'osent pas dire grand-chose. Et là, pour avoir vu et pour avoir entendu, c'est assez effrayant. Enfin, rendez-vous compte, hein, plus de la moitié de l'habitat parisien est insalubre en 2025.
Oui, aujourd'hui, oui. Alors, juste une petite remarque. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que on sort d'une frénésie des ventes après la crise sanitaire qui c'est un peu comme un contre-coup?
1 200 000 transactions, je crois, l'année dernière, un nombre très très élevé, effectivement, de transactions. Moi, je pense que les Français veulent devenir propriétaires, c'est une bonne chose. C'est la propriété, c'est un droit inviolable et sacré. C'est le pendant de la liberté. Moi, je crois qu'en France, on souffre d'atteintes à la liberté multiples et variées par des lois, par des réglementations et également par cette atteinte à la propriété. Je pense que pour mettre à l'abri sa famille, eh bien, avoir un toit, c'est quelque chose qui me semble partagé par l'essentiel, la grande majorité des Français. Et après, dans le cas de l'aménagement du territoire, la France a ce pays, a cette chance d'avoir un pays extraordinaire. Toutes nos régions sont magnifiques et d'avoir un marché de l'immobilier fluide. C'est-à-dire de pouvoir faire un parcours résidentiel. Et moi, je n'oublie pas que je considère évidemment que les prix, j'étais maire, que les prix sont excessivement élevés et qu'il faut pouvoir loger la population et qu'on devrait renvoyer effectivement la responsabilité, mais politique, mais pas sous forme de contrainte, l'incitation. Comme pour les retraites, il faut inciter à travailler plus, il faut inciter les maires à construire pour loger la population. Le maire, premier élu local, qui voit passer toutes les semaines, s'il est sur le terrain, eh bien des personnes qui habitent dans les villes et villages de France. Et donc ces maires doivent s'emparer de ces questions du logement à des prix qui sont accessible. Et la question du social n'est pas une bonne question, parce que aujourd'hui, même le logement social est inaccessible pour une grande partie de la population. Donc moi, je renvoie à la liberté des élus locaux, à l'incitation, puisque c'est vrai que dans nos régions, il faut pouvoir loger les gens, et il faut que lorsque j'étais maire, j'ai fait des projets à prix modéré qui ont visé des familles, des jeunes actifs, et c'est possible à condition de le vouloir fortement et de ne pas succomber sur des multiples obligations qui en fait détournent de l'objectif poursuivi, qui est de construire à des prix modérés. Donc les prix, donc à mon avis, vont baisser un tout petit peu dans les zones tendues, mais pas beaucoup. Par contre, il y a des logements qui sont vides, et par contre, avec les diagnostics immobiliers, on va condamner des belles maisons à colombage d'Alsace, parce qu'on va devoir les isoler par l'extérieur. Et avec la question, alors c'est plein de sujets, les bâtiments de France, mais aujourd'hui, avec les diagnostics, les normes qui existent, pour certains cas, ce n'est pas possible. Donc une vraie, vraie alerte, et les Français s'en rendent pas trop compte, nous verrons dans les mois qui viennent s'effondrer, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Nous avons les collectivités, ce qu'on appelle les DTMO, les droits sur les transactions à titre onéreux, et ça s'effondre, et ça a perdu plus de 30%. Et le dernier trimestre de l'année 2022, la masse de crédit, sur le dernier trimestre, elle est baissée de 47%. Et l'État attend. Nous avons créé un paradis pour les investisseurs, a dit Emmanuel Macron.
Sébastien Meurant, dernier sujet, puisque la loi SRU, vous l'avez un petit peu abordé, mais je voudrais peut-être qu'on parle aussi du manque d'investissement et de considération du gouvernement et des pouvoirs publics pour notre département, donc qu'on qualifie de grand oublié du Grand Paris.
Alors, dans le schéma des transports du Grand Paris, il y a la ligne 17 sur le Val d'Oise, c'est un tout petit bout de ligne qui passe par Gonesse, et il y a ce projet qui était un projet énorme en termes d'investissement privé, c'était 3 milliards d'euros donc sur Europa City, et qui était loin de la caricature qui avait été mis en avant dans certains médias. Donc ce projet de 3 milliards d'euros qui devait créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois a été abandonné, déchiré d'un trait de plume, et le groupe Auchan et ses partenaires ont détruit plus de 80 millions d'euros d'investissement, décision de l'État. Et là, moi, j'attends de savoir ce qui va se faire pour ce projet qui était un peu le sur le plan plus culturel, mais le Euro Disney du département du Val-d'Oise qui aurait permis de mettre sur l'Est du Val-d'Oise une autre image avec des infrastructures qui auraient accompagné ce projet, mais surtout avec un investissement privé. Donc c'était un investissement qui ne demandait pas de dépenses publiques. Et là, moi, c'est un fait que le Val-d'Oise est le seul département, et on sait très bien que ça se fera plus maintenant, mais vous parlez des bouchons tout à l'heure, moi je suis un utilisateur à la fois de la voiture, à la fois des transports en commun, le seul département où les autoroutes ne sont pas branchées sur le périphérique, la 15 à 16, c'était prévu à l'époque des grands hommes d'État, de Gaulle, de Louvrier, c'était prévu, ça ne se fera plus, mais les deux autoroutes, c'est les seules qui ne sont pas branchées, c'est chez nous. Le bout de Francilienne qui manque, le troisième super périphérique, mairie Orgeval, 26 km, enquête publique de 2006, c'est chez nous. Et l'État nous demande de construire toujours plus avec les contraintes de loi SRU. Je ne sais pas comment vous allez faire à Enghien, il va falloir démolir des belles maisons. Je ne sais pas comment vous allez faire à La Frette, comment vous allez faire à Auvers, pour pouvoir passer 25% du stock de logements en logement social. Logement social qui ne répond même pas à la demande d'une certaine population qui ne gagne pas suffisamment pour avoir accès au logement social. Donc le Val-d'Oise a bien besoin d'investissement, a besoin d'entrepreneurs. Et là, je suis entouré d'entrepreneurs et de formation. Et j'en suis ravi parce que c'est vraiment par là-bas, je crois. Donc il faut créer sur le territoire, pour éviter que les gens aillent se former forcément à Paris, aillent forcément à Paris pour trouver un bon restaurant, pour trouver des beaux marchés. J'espère que le département sera pesé, parce que c'est un rapport de force, et c'est ce que je regrette, et c'est ce pourquoi je me suis présenté au Sénat, et pour ça je me représente, parce qu'on est un département qui est faible politiquement, qui n'ose pas ou qui n'ose pas assez. Argenteuil, par exemple, Argenteuil-Beson, est parti avec la métropole parisienne. C'est un affaiblissement du Val-d'Oise. Et là, moi, j'étais pas grand élu à l'époque, mais je trouve regrettable et dommageable que les élus de l'époque aient laissé partir Argenteuil-Beson, sixième pôle économique d'Île-de-France. C'est un affaiblissement du département. L'aéroport de Roissy, qui a aussi des inconvénients, évidemment, mais aussi a beaucoup d'avantages, des inconvénients en termes d'écologie, de survol des avions, mais moi je crois au progrès technique, je crois à l'intelligence, et en tout cas la plateforme aéroportuaire est aussi sur le 77, là, une grosse agglomération avec un ancien grand élu voulait récupérer, donc en quelque part dépecer le Val-d'Oise, département faible politiquement. Donc il faut se battre pour notre département, c'est tout l'enjeu en fait de mon combat politique, parce que moi je suis né dans ce département, je vis dans ce département, je travaille dans ce département et à Paris, et je vois la situation en tout cas des transports, de l'insécurité. Alors là, je me réjouis qu'il y ait des formations, qu'il y ait des investisseurs, parce qu'on a vraiment, c'est une petite France, c'est le chapeau de l'Île-de-France, du Vexin français, donc à cette plateforme aéroportuaire, de notre vallée de Montmorency, de ce lac d'Enghien si beau, de ces marchés si beaux, de cette plaine de France, de ces grandes villes. On a Argenteuil, troisième ville d'Île-de-France, qui regorge de potentialités, encore faut-il les exploiter. Je m'arrête là parce que je pense que je pourrais continuer à parler. Oui, je ne veux pas abuser du micro. En tout cas, merci.
Merci, monsieur le sénateur Sébastien Meurant, pour toutes ces réponses. On retiendra que pour vous, ce qui est important, ce sont les actes, hein, et pas les paroles.
Absolument. Donc, ça va mieux. Ouais. La meilleure communication, c'est l'action.
Et merci pour toute cette énergie, hein, que vous nous déployez. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Un peu de musique avant de continuer. À tout de suite.
J'ai trop qu'aimé cliquer mes claques, contre des cloques et des flaques, un sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, oh Dieu que je l'aime. Et tourne, tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, ah, je m'en vais. Et ceux qui perlent sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne ton, l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes.
gêne ma peine plus que la haine. Et mes larmes, oh Dieu que j'ai mal. Et tourne, tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Et tourne, tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Je m'en vais.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et je suis toujours en compagnie de Sébastien Meurant, sénateur et conseiller départemental du Val-d'Oise, Jérôme Morge, directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité à Argenteuil, Catherine et Éric Duchesne, fondateurs et dirigeants de l'agence de communication Principe Actif, Philippe Piton et Fabien Giraud du club d'Inactive. Jérôme Morge, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, entre 20 et 30 000 agents de sécurité privée supplémentaires seront nécessaires, alors que la profession manque déjà de personnel. Pour réussir à relever ce défi, tous les acteurs sont mobilisés pour recruter les intéressés et créer des vocations. Et votre campus sécurité fait partie de ce dispositif.
Bonjour Jacqueline, enfin rebonjour.
Bonjour.
En effet, le campus sécurité, alors en effet, campus des métiers, qualification d'excellence, ça fait un peu long, mais on l'appelle surtout le campus sécurité. On est basé à Argenteuil et on a un positionnement qui est un peu particulier puisque au niveau de la pédagogie, comme on l'évoquait tout à l'heure, on se situe au milieu de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est se situer au milieu de l'enseignement et des entreprises pour arriver à réunir ces deux mondes. C'est de par cette position que le campus a été sollicité pour apporter sa pierre à l'édifice concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr. On n'est pas sans savoir que le sujet de la sécurité des Jeux Olympiques va être un sujet, ou est déjà un sujet, en tout cas il est bien anticipé. Sur ça on a pu prendre un temps d'avance, si je peux me permettre, en créant un nouveau titre. En fait, aujourd'hui, pour décrire très simplement, le milieu de la sécurité privée est basé sur essentiellement un titre qui s'appelle l'agent de prévention et sécurité. C'est 175 heures de formation, c'est une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, qui dépend du ministère de l'Intérieur, je fais simple pour les non-initiés, et donc on a créé un titre de 106 heures qui est essentiellement basé sur l'événementiel. Donc on est vraiment sur de la sécurité événementielle et on a souhaité faire en sorte que les 106 heures fassent partie des 175 heures. Donc les modules de cours existent déjà, les formateurs sont déjà habilités et ainsi de suite. Au moins sur cette partie-là, on avait déjà je veux pas dire un temps d'avance, mais en tout cas on avait des bases sur lesquels on pouvait se baser et exploiter. Voilà ce qu'on a poussé en tout cas, et ce qui a été créé par la branche, hein, c'est bien la branche de la sécurité qui a déposé ce titre et qui l'a obtenu. Et maintenant les organismes de formation s'en emparent et forment sur ce fameux titre en 106 heures. Pour donner un ordre d'idée, que les gens se rendent bien compte, hein, 175 heures c'est 5 semaines de formation, alors que 106 heures c'est 3 semaines de formation, 3 fois 35 heures, on arrive à 105 heures, on arrive à faire tenir ça en 3 semaines.
Oui, on a bien compris, vous l'avez dit, que depuis plusieurs mois, les organisateurs de Paris 2024, le gouvernement, la préfecture de police et la municipalité parisienne planchent sur le dossier afin que tout soit parfait, mais surtout qu'aucun incident ne vienne perturber la sécurité des spectateurs, des délégations et autres figures officielles qui viendront participer à l'événement, et ce tout particulièrement pour l'organisation de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. Qui va être scruté dans le monde entier.
C'est exactement ça. En fait, la sécurité privée ne fera pas tout, mais ce qui est important de voir, c'est l'addition des forces. Que ce soit les forces régaliennes, on va mettre la police, la gendarmerie, tout ce qui est SDIS et BSPP. Alors SDIS, ce sont les services départementaux d'incendie et de sécurité, alors que la BSPP, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. En unifiant et en ajoutant toutes ces forces et la sécurité privée, l'idée c'est d'avoir ce qu'on appelle un continuum de sécurité, un relais en tout cas entre ce que les uns font et quand est-ce qu'on passe la balle, excusez-moi, mais on est dans le milieu sportif, aux autres, et quelles sont les missions des uns et quelles sont les missions des autres. La sécurité privée vient s'ajouter au dispositif déjà imaginé par les forces régaliennes.
Vous avez identifié un besoin de 22 000 agents, c'est ça?
Alors, c'est pas moi qui l'ai identifié. Hein. Il y a un rapport du COJO qui est paru il y a maintenant 2 ou 3 ans, qui identifiait entre 20 et 25 000 besoins sur la sécurité au niveau des Jeux Olympiques. Le chiffre est peut-être plus large, en fait, parce qu'en fonction des événements, en fonction des vacations, en fonction des pics et ainsi de suite, on serait entre 20 et 30 000. Avec 25 000, on devrait pouvoir s'en sortir.
Alors, vous nous avez parlé de cette formation hein, de 106 heures, une formation qui est possible en distanciel.
Alors, cette formation de 106 heures, comme je le disais, elle fait 3 semaines, elle a différentes caractéristiques. La première, c'est pour rentrer en formation, il y a des critères. Ce sont exactement les mêmes que pour la formation d'agent de sécurité classique, et on a pris les mêmes critères, ce qui permet, dans l'étude du dossier d'entrée en formation, une certaine fluidité. Donc, il faut être de nationalité française ou depuis plus de 5 ans sur le territoire français, avoir un titre de séjour. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Alors c'est un peu plus complet que le casier judiciaire, puisqu'il y a une enquête de moralité également qui est faite sur la personne qui candidate à la formation. Il faut avoir un niveau B1. Il faut savoir parler et écrire français. Et il faudra avoir plus de 18 ans au mois de juin 2024 pour pouvoir officier en tant qu'agent de sécurité, événementiel dans ce cas-là, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc ça sont les critères d'entrée. Donc il y a une étude qui est faite. Il y a des moyens qui sont mis autour de cette formation. Très clairement, avant, pour obtenir une autorisation au préalable d'entrée en formation, il nous fallait entre 2 semaines pour les plus rapides et quelques mois pour les plus longs. Aujourd'hui, on arrive à tenir les délais en 5 jours. Ça, c'est l'engagement que le CNAPS a pris et ils les tiennent. Donc pour l'instant, on ne peut qu'espérer que ça continue, puisqu'on nous montons en charge sur les formations. Donc on va avoir un petit peu plus de volume, mais les moyens ont été mis de ce côté-là pour préparer cette entrée en formation. La formation, elle, dure 3 semaines. Une semaine est possible, en effet, en distanciel. En fait, toute la partie juridique, légale et ainsi de suite peut être faite en distanciel. Et on a souhaité aussi, au niveau des formations, avoir différents rythmes, différents types de formations, en fait, pour s'adapter au mieux au public, en fait, pour mieux leur proposer des solutions de formation. Donc, vous avez la formation en 3 semaines pleines dans un centre de formation. Vous avez la première semaine qui peut être faite à distance, synchrone ou asynchrone, chacun à son rythme, ou alors avec un professeur, et puis après vous prenez les 2 semaines finales qui elles sont en présentiel. Ce qui est important, c'est vraiment, les 3 semaines sont importantes, mais pourquoi on garde les 2 semaines en présentiel, c'est qu'une formation pratico-pratique.
Bien sûr.
En effet, il faut exercer
filtrage,
la palpation et ainsi de suite. Ce n'est pas une formation théorique. Mm-hmm. Donc, en effet, sur les modules théoriques, comme le juridique, rappelez ce que c'est que l'article 73, c'est toute la partie interpellation. Rappelez ce qu'est le CSI, le Code de Sécurité Intérieure. Les parties déontologiques, tout ça peut être fait à distance par un formateur qui lui-même métabilité. En revanche, lorsque vous êtes sur des aspects pratiques, un massage cardiaque, ça ne s'apprend pas à distance. Il faut pratiquer sur des mannequins et ainsi de suite. L'utilisation d'un défibrillateur. Enfin voilà, toutes ces parties secourisme, et puisqu'il y a une des UV, c'est le secourisme, il faut les faire en pratique. J'évoquais tout à l'heure tout ce qui est point de filtrage, palpation et ainsi de suite. C'est pareil, il faut apprendre comment on fait une palpation, comment on organise un point de filtrage. On n'est pas sans savoir que aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques, le public attendu est à parité 50-50 hommes-femmes. Dans les milieux de la sécurité, on a un très très fort déséquilibre hommes-femmes. Hein.
C'est la question que j'allais vous poser. C'est la question que j'allais vous poser.
Oui, on estime grosso modo à 25-27% le nombre de femmes dans les milieux de la sécurité. Et donc, ça pose un vrai problème sur les files d'attente, très clairement, parce que la loi française est très claire là-dessus. Une femme, spectateur, spectatrice, du coup, ne peut être palpé que par une femme. Mmh. Donc les files d'attente chez les femmes risquent d'être plus longues, et ça c'est hors de question de créer des attroupements à l'extérieur des stades. On gère beaucoup mieux le public dans l'enceinte sportive qu'à l'extérieur. Voilà. Donc ça, voilà. Donc on a une forte incitation aussi de ce côté-là à féminiser ces métiers-là. On a aussi une... Je pense qu'il faut aussi sur l'image du métier. Ce ne sont pas forcément des métiers physiques, ce ne sont pas des métiers sportifs. Qu'est-ce que c'est qu'un agent de prévention et de sécurité? Qu'est-ce que c'est qu'un agent de surveillance événementielle? C'est d'abord quelqu'un qui fait de l'accueil, de l'information, de l'orientation. Et très clairement, il n'y a pas de combat dedans, il n'y a pas dans les cours, il n'y a pas ces parties-là. Il y a plutôt des cours qui permettent de gérer les conflits. Donc il y a deux modules. Le premier, c'est gestion de conflits, et le deuxième, c'est gestion de conflits dégradés. Donc, abaisser la tension, gérer quelqu'un qui a oublié son billet. Oui, on aura forcément ce genre de situation de quelqu'un qui va être crispé, énervé, dans tous ses états, à l'extérieur, juste au pied du stade, parce qu'il va se rendre compte qu'il a oublié ses billets et comment il fait pour rentrer. Mais il faut apprendre à discuter avec ces gens-là, à apaiser la situation et ainsi de suite. Voilà le contenu qu'on peut avoir dans la formation, en tout cas.
Donc le projet JOP 3000, c'est former 3000 jeunes étudiants lycéens à ces métiers de la sécurité événementielle.
Oui, comme on le disait, les 20-25 000 en fait ont été, découpés, segmentés. Lorsqu'on cherchait le type de public que l'on pourrait former, bien sûr, les premiers ont été les agents de sécurité qui ont des cartes qui ne sont pas actifs. Ensuite, on a été du côté de Pôle emploi sur les gens qui avaient des cartes de sécurité, est-ce qu'il fallait pas les réactiver. Ensuite, on a été toujours du côté de Pôle emploi sur des gens qui avaient les mots-clés sécurité, prévention, sûreté et ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure, une réflexion est arrivée sur une population un peu à part que sont les étudiants. Aujourd'hui, un étudiant, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure sur le travail, sur boucler les fins de mois et ainsi de suite, certains étudiants travaillent ce qu'on appelle le job étudiant. Alors ils vont dans des grandes chaînes de restauration, dans des grandes chaînes vestimentaires, très bien. Et pourquoi ils n'exerceraient pas de la sécurité événementielle? Donc c'est ce type de population que nous ciblons, en tout cas dans le projet JOP 3000, avec un objectif de former, d'avoir 3000 jeunes aux Jeux Olympiques. Donc on en formera un petit peu plus de 3000, hein. On sait très bien qu'on aura forcément une perte en ligne. Mais les Jeux Olympiques ne sont pas une finalité. C'est un tremplin, un objectif et ainsi de suite dont on veut se servir. Sur différents aspects, depuis très longtemps, la profession et la partie événementielle de la profession poussent à ce titre événementiel, parce que dans la sécurité événementielle est une typologie un peu spéciale dans la sécurité. Pour vous donner un exemple, garder un supermarché et garder le Stade de France, il y a quand même, c'est pas la même typologie en fait, c'est pas la même fréquence, c'est pas le même événement, c'est pas le même type de public. Enfin voilà. Donc il y avait cette partie-là aussi qui poussait un peu au niveau de la profession. Et puis au niveau de la population, les jeunes étudiants, alors du coup plus de 18 ans au moment des Jeux Olympiques, que ce soit des lycéens qui auront plus de 18 ans ou déjà des étudiants dans l'enseignement supérieur qui sont actuellement ciblés, ont aussi ce profil sur de l'événementiel. C'est plus facile quand on est de la même génération pour apaiser une situation. Et puis voilà, et il faut rappeler une chose, ils ne seront jamais seuls. Ça, c'est aussi très important. Un agent de sécurité événementiel formé en 106 heures ne sera jamais seul face au public. Il aura toujours un agent de prévention formé, lui, en 175 heures, qui a des compléments de formation avec lui. Et puis, on n'oublie pas que ce que j'évoquais tout à l'heure, dans le continuum, derrière, il y a les forces régaliennes, police ou gendarmerie, en fonction d'où on se trouve. C'est une question d'escalade, de travail collectif et de se passer le relais en fonction de l'identification de tel ou tel, l'anticipation de tel ou tel problème qu'il pourrait y avoir.
À partir de quand cette campagne, Jérôme Morge ?
Alors les formations ont déjà commencé, oui. c'est ça qui est important, parce que vous imaginez bien que former 3000 jeunes,
oui, et ça là, se fait pas comme
à coup de 12, donc ce que j'appelle à coup de 12, c'est que la loi nous contraint à être 12 par formation, donc quand vous divisez 3000 par 12, ça fait quelques sessions de formation. Alors après, on n'est pas là sur le pourquoi 12, le pourquoi 12, c'est parce que un groupe de 12 a formé dans les pratico-pratiques, c'est très agréable pour le formateur. Ce qui est important en fait, c'est de démultiplier l'appareil de formation, et puis de lancer une campagne de sensibilisation des jeunes à ces métiers-là. Donc la campagne de sensibilisation, elle, a déjà commencé. C'est une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne sur... On faisait un webinaire la semaine dernière. C'est une ce qu'on appelle une campagne digital marketing. Donc ça, c'est lancé. Si vous allez sur le site de Pôle emploi ou si vous allez sur un moteur de recherche et que vous faites Pôle emploi, formation sécurité jeunes ou étudiants, vous trouvez, il y a un QR code. Vous avez un numéro de téléphone à appeler et une plateforme spéciale qui a été mise en place par Pôle emploi pour vous guider dans les différentes étapes pour s'inscrire. Voilà, quand je parlais tout à l'heure de moyens qui ont été mis en place, côté CNAPS, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, pour obtenir cet auto-prêt, il y a des moyens, il y a des équipes dédiées qui ont été mises en place. Côté Pôle emploi, dès qu'un étudiant appelle pour se former dans la sécurité, il y a des moyens qui ont été mis en place
et
des équipes dédiées.
Dirigé vers ce genre de...
Voilà. Et puis, donc la campagne campagne digitale, comme on le disait. Et puis l'autre partie, c'est qu'il faut des centres de formation. Donc il y a déjà les centres de formation qui existent, hein, les centres de formation privés, et puis l'éducation nationale, en tout cas sur la région Île-de-France, a souhaité que les 16 lycées qui sont des lycées professionnels en métier de la sécurité, donc là où on forme des bac pro métier de la sécurité, hein, pour en 3 secondes l'appareil de formation de l'éducation nationale, il y a un CAP dans les métiers de la sécurité, il y a un bac pro dans les métiers de la sécurité et il y a un BTS dans les métiers de la sécurité. Voilà, et donc ce sont des plateaux techniques qui sont déjà équipés. Et ça, c'est un très gros avantage, puisqu'il faut un petit peu d'équipement. Hein.
Bien sûr.
Il y a un certain ticket d'entrée pour former dans les métiers de la sécurité. Et puis, du coup, ces lycées étant déjà équipés, nous les faisons habiliter par la branche, la même qui a déposé le titre et qui détient le titre de formation. Comme ça, c'est la boucle est bouclée. Et donc, on les fait habiliter au fur et à mesure. Donc, il y a 16 lycées en Île-de-France publics, plus 3 privés. Sur les 16, 5 sont déjà habilités. On devrait en habiliter 2 cette semaine, peut-être 2 la semaine prochaine. Vous voyez, on monte en puissance sur l'appareil de formation. Et puis, on a déjà les formateurs, puisque en même temps, on forme les enseignants en bac pro ou en CAP ou en BTS ont déjà leur diplôme, où on les complète sur 2-3 habilitations dont ils auraient besoin.
Les GREDA vont faire partie de la formation également, et je voudrais préciser que une rémunération des étudiants va leur être donnée, ces étudiants qui suivent la formation.
Oui, alors il y a deux choses sur la partie rémunération. Déjà sur la fin, sur les Jeux Olympiques, en fait, tout étudiant qui aurait sa carte professionnelle sera employé par une société de sécurité attributaire des Jeux Olympiques et donc touchera une rémunération. On n'est pas sur sur des étudiants bénévoles. On est vraiment sur de l'employé qui travaillera pendant les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les métiers de la sécurité sont ce qu'on dit des métiers en tension. Et donc, pour inciter à entrer dans ces formations autour des métiers en tension, il y a deux actions. La première, elle est faite par Pôle emploi. Donc c'est une question d'âge, hein. Pour les 3 semaines de formation. Si vous avez moins de 26 ans, vous toucherez 352 euros pour les 3 semaines. Si vous avez plus de 26 ans, vous toucherez 482 euros. Ça, c'est la partie Pôle emploi. Il y a une deuxième partie qui vient s'y adjoindre en région Île-de-France, puisque la région Île-de-France a souhaité offrir, enfin mettre en place en tout cas un dispositif de prime d'entrée en métier en tension. Et en ce qui concerne la sécurité, c'est 1 000 euros par formation. c'est 600 euros. Donc, ce qui fait, grosso modo, 1000 euros au total, pardon.
C'est ça.
Oui, on est bien sur le total. On est quasiment à 1000 euros. 352 ou 482 d'un côté et 600 euros côté région Île-de-France. Donc, une formation effectuée par des professionnels, par des gens habilités dans un cadre défini par la branche. Et puis après, vous pouvez travailler aux Jeux Olympiques où vous serez rémunéré. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que vous pourrez travailler dès cet été. Imaginez quelqu'un qui rentre en formation, par exemple, le 19 juin. Mmh. Je donne le 19 juin, c'est les formations qui ont lieu dans le campus, puisque nous sommes aussi centre de formation.
Bien sûr.
En plus des Greta. Hein. Donc, quelqu'un qui va travailler, qui va commencer le 19 juin, va finir à peu près le 7 juillet. Et donc, à partir du 8 ou du 9, il pourra exercer. Et on ne sera pas aux Jeux Olympiques cet été, on sera un an avant. Eh bien, il pourra commencer déjà à faire de la sécurité événementielle. Et pour une fois, on a eu, dans ce dossier, en tout cas, il y a plusieurs fois quand même, où on a eu des idées simples. Voilà. En fait, comment on définit un événement événementiel? C'est 300 personnes. Il n'y a qu'un seul critère, c'est plus de 300 personnes. Donc imaginez 300 personnes, ça va très vite sur un événement. Donc beaucoup d'événements peuvent être classés en sécurité événementielle. Et donc les jeunes pourront travailler dès cet été sur cette partie-là. Et puis ils pourront travailler tout au long de l'année universitaire prochaine. Bien sûr, avec cet objectif des Jeux Olympiques 2024 ensuite.
Voilà, de belles opportunités pour ces jeunes qui vont pouvoir faire autre chose que travailler au restaurant. Merci Jérôme Morge. On aurait d'autres choses à dire, mais voilà, l'heure tourne, mais vous reviendrez. Hein. C'était un souhait déjà que vous reveniez, donc vous reviendrez. Je propose qu'on fasse une courte pause, Francky, pour pouvoir donner la parole à mes deux autres invités.
Honeymoon is at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me,
rejoignez, c'est bien l'économie en direct et ce matin des thèmes riches et variés avec à mes côtés Sébastien Meurant, sénateur et conseiller départemental du Val d'Oise, Jérôme Morge, directeur opérationnel du campus des métiers de la sécurité à Argenteuil, Catherine et Éric Duchesne, fondateur et dirigeant de l'agence de communication Principe Actif, Philippe Piton et Fabien Giraud du club d'Inactive. On enchaîne avec vous Catherine et Éric Duchesne, venus en voisin.
C'est ça.
Alors, le nom de l'entreprise, c'est Principe Actif. J'ai ma petite idée sur le nom de cette agence, mais vous me confirmerez. Parce que vous avez un parcours académique, maîtrise biologie pour Catherine, ingénieur en génie. Non, c'est Éric, maîtrise de biologie, et Catherine, ingénieur en génie biologique. Donc, très loin d'une agence de communication.
Oui, effectivement. Alors en fait, nous nous sommes rencontrés chez Schweppes.
Oui.
Moi, j'ai repris le poste d'Éric, qui était responsable qualité de l'usine de Gonesse. Éric est parti en production, donc on était vraiment très loin de la communication, mais on était un petit peu dans le packaging avec tous les emballages. On a eu, comment dire, comme ça se passe dans ces grands groupes, il y a toujours des changements de postes. Donc moi, j'ai pris ensuite vraiment les postes qualité pour l'ensemble de la France et du Benelux, des choses plus fonctionnelles, moins opérationnelles. Éric est parti dans le service développement packaging. Et puis, les choses ont évolué et Eric est parti dans une agence de communication, la société, l'agence Landor, qui avait besoin de quelqu'un qui fasse le lien entre les créatifs et la réalisation. Parce que lorsqu'on est créatif dans une agence de communication ou de design, on a toujours de très belles idées.
Oui,
mais qui ne sont pas toujours réalisables. Et le risque, c'est que le client soit déçu parce que lui, il s'emballe sur des propositions extraordinaires, mais qui n'est pas du tout
pas
à la
possible
fin,
à l'arrivée.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et à l'inverse, si vous bridez les créatifs dès le départ, on tourne en rond. Donc, en ayant quelqu'un qui venait du terrain, qui connaissait bien l'industrie, l'idée de l'agence Landor, dans laquelle est rentré Eric, c'était de dire, ok, cette personne-là va savoir jusqu'où les créatifs peuvent aller et jusqu'où on peut stimuler un peu les techniciens, les industriels qui parfois sont un peu frileux, qui n'osent pas ou challenger d'autres fournisseurs. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et puis, moi, j'ai arrêté de travailler pendant 10 ans parce que nous avons eu 3 enfants en 4 ans. Donc, j'ai changé un petit peu d'activité. Voilà, je le regrette pas du tout. Et puis, lorsque j'ai repris une activité, j'étais toujours dans le domaine de la qualité, mais dans un groupe qui s'occupait des arts graphiques, c'est-à-dire de l'agence de communication, des imprimeries, de la PAO, des imprimeries numériques rotatives, voilà. Et Eric, lui, continuait son petit bonhomme de chemin, si on peut dire, chez Landor, en ayant étoffé son service avec tout un service de retouche photo. Bon, enfin, il vous en parlera sûrement mieux que moi s'il s'exprime là-dessus. Et il y a 14 ans, en fait, on s'est retrouvés, c'était après la crise de 2008, tous les deux sans activité professionnelle. Et plutôt que de rechercher un travail, on s'est dit qu'il y avait des choses qu'on ne supportait
pourquoi
plus
pas,
voilà, dans des sociétés, c'est-à-dire mettre du temps à prendre des décisions, être frileux, toutes ces choses-là. Et on s'est dit, voilà, nous, on va créer notre propre agence à tous les deux. Voilà, parce que l'union fait la force. Et puis, on est un binôme.
Vous aimiez ce que vous faisiez.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Et puis, on se connaît tellement que pour nous, c'était pas un problème de travailler ensemble. On avait déjà travaillé ensemble chez Schweppes. Et on avait vraiment envie de faire ce que les autres ne faisaient pas. Voilà, à notre modeste niveau.
C'est ça. Et donc, vous, Eric, vous êtes, à partir de là, vous êtes spécialisé dans la réalisation de moutons à 5 pattes, si on peut dire, quelque part.
En fait, oui. Donc le développement packaging. Donc nous, on s'est spécialisé. C'est un peu le hasard de nos clients, plutôt dans le marché du luxe. Donc les spiritueux, les champagnes, les parfums, pour faire rapide.
Oui.
Et de là, on touche à tous les emballages. Donc ça va par exemple d'une bouteille de verre produite chez des verriers qui font des milliards de bouteilles par an, à des carafes en cristal qui sont faites à la main, toujours en France aussi. On essaye de nos partenaires sont en France. Ça va de d'étiquettes simples à des étiquettes très compliquées en termes de finition. Ça va d'étuis de parfum ou de spiritueux simples à des coffrets comme des malles en fait habillés en cuir ou enfin des métiers de gainerie. Donc on a développé en fait pour nos clients ces solutions. Effectivement, souvent ils font appel à nous parce qu'on travaille, on a la chance de travailler avec des toujours des grandes marques au sens de la marque très connue, on peut pas toutes les citer parce qu'on a des contrats de confidentialité bien sûr, mais aussi avec des grands groupes et qui ont les moyens de pouvoir faire des choses, on va dire, belles.
Qui ont les moyens, oui.
Et en fait, si vous voulez, s'ils font appel à nous alors qu'ils ont dans leurs équipes des services achats très importants ou des ingénieurs packaging très importants, c'est parce que justement, de par notre réseau, de par notre équipe, de par notre savoir, de par nos partenaires, qui sont en fait avec qui on travaille, on est très fidèles depuis plus de 20 ans, certains qui sont meilleurs ouvriers de France, donc on travaille avec beaucoup d'artisans qui font partie des grands ateliers de France, et puis avec des fournisseurs, effectivement, moi j'ai privilégié quand c'est possible, plutôt des patrons d'entreprises dont je les connais personnellement, plutôt que des grands groupes où vous avez en fait affaire à des salariés et qui passent d'une boîte à l'autre, en fait, en fonction de, voilà, donc c'est un
petit peu... Des gens motivés.
Voilà, et donc tout ce parcours fait que on s'est spécialisé aussi effectivement dans le fait des moutons à cinq pattes et de dire que rien n'est impossible dès l'instant où on peut le faire. Ouais.
Mais c'est donc que vous aviez quand même tous les deux la fibre commerciale pour arriver à ce résultat.
Pas du tout.
Pas du tout. Ah bon.
On s'est souvent posé la question. En fait, maintenant, dans notre équipe, on a des créatifs, donc des designers, qu'on fait des écoles supérieures de design à Paris. On a maintenant, en plus de moi, deux ingénieurs, donc une qui a fait donc Estelle qui a fait l'école d'ingénieur packaging de Reims, et puis Marion qui est ingénieur réservement qui a fait l'école des mines. Donc vous voyez, c'est pas du tout des profils commerciaux. Et puis après on a des artisanes qui ont fait des études de reliure d'art, de restauration d'affiches de musées, donc des métiers en fait d'art qui n'ont rien à voir en fait. Et on n'a pas de commerciaux. On s'est souvent posé la question, est-ce qu'on doit embaucher un commercial et pour faire quoi en fait, pour aller prospecter des clients, les appeler, alors qu'en fait nous
si
finalement c'est le bouche à oreille.
En
réalité nos clients, alors qu'on a certains, on a des contrats, ce qui fait qu'on assure tout leur développement packaging, leur prototype, leur série. D'autres en fait c'est le bouche à oreille. Quand il y a un client, en général nos clients sont des gens de marketing souvent, et donc quand un chef de produit ou chef de groupe ou directeur marketing est content de nous, il en parle forcément à ses collègues, et donc c'est comme ça en fait, c'est le bouche à oreille qui a fait on a étoffé nos clients et qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, et on voit pas l'intérêt d'avoir en fait une équipe commerciale.
C'est un microcosme où tout le monde se connaît, et puis le mot passe vite, aussi bien dans un sens que dans l'autre d'ailleurs. Alors vous réalisez des prototypes, des maquettes hyper réalistes, et on peut parler du Nabucodonosor moitié Chandon.
Oui, ça en fait, on peut en parler puisque on a l'autorisation, et puis effectivement c'était un gros événement. Donc c'était pour l'inauguration l'agrandissement, l'inauguration de l'hôtel Atlantis de Dubaï, où Moët & Chandon est le fournisseur exclusif de champagne, c'est un de leurs gros aussi clients. Il y avait un grand événement en janvier, donc point d'orgue, un concert de Beyoncé privé en fait dans l'hôtel. Et là nous effectivement on a réalisé donc la création, donc le design, donc là c'est Charlotte chez nous qui a fait le design, de reprendre en fait sur la bouteille de Moët & Chandon de 15 litres, de reprendre en fait le décor de l'hôtel Atlantis, donc qui est très particulier, on peut aller voir sur internet celui de Dubaï, c'est vraiment et donc il a fallu bien sûr qu'on ait l'accord des architectes, au contraire, et on a habillé la bouteille d'une cage en étain. On travaille avec un orfèvre, l'orfèvrier d'Anjou, qui est le plus gros orfèvre maintenant en France, qui travaille donc l'orfèvrerie, travaille l'étain entre autres, qui est un métal précieux. Ensuite, on a effectivement habillé avec une plaque, une étiquette, mais une plaque en étain plaqué or 24 carats 3 microns à Paris, chez un de nos partenaires en Galvanor, qui est le dernier en fait dans Paris intramuros à faire les bijoux, donc il travaille beaucoup pour les grandes marques, et puis donc aussi pour nous, parce que on a pas mal de projets. Et puis on a reconstitué l'hôtel en fait donc en relief avec les fenêtres et les murs, tout ça en plaqué or 24 carats 3 microns dans deux ors différents. Et puis cette pièce, après qu'une cravate, on a un artiste peintre qui travaille à Caudette Pontoise, donc qui nous a peint la cravate, nos maquettistes Marie qui a été venir habiller la cravate, etc. Bref, et à la fin cette bouteille a été effectivement, elle est toujours, donc on peut la voir là d'ailleurs. Oui. Il y a l'amie une amie d'un de nos designers qui est à Dubaï, nous a envoyé hier des photos et un film, et effectivement elle est maintenant dans l'accueil de l'hôtel de Dubaï. Oui, donc c'est une belle chose.
D'ailleurs, j'invite mes autres invités puis les auditeurs et auditrices à aller sur les réseaux sociaux, on la voit hein, cette bouteille, donc ouais, elle est magnifique. Des projets comme ça, ça doit être extraordinaire pour des designers des agences telles que la vôtre.
Ah oui, c'est très très stimulant parce que parfois on nous donne presque une feuille blanche.
Oui.
Donc il faut créer. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas seulement créer sur un écran d'ordinateur. Il faut ensuite que ça prenne vie. Et ça, c'est la partie qui est cachée un petit peu, parce que personne ne sait ce qui se passe entre le moment où on fait la création, on l'imagine, elle est validée, et le moment où on la réalise. Et c'est cette partie-là, parce que c'est un projet. Alors, parfois, ils sont moins prestigieux que celui dont on vient de parler, mais ils sont tout aussi intéressants. C'est cette partie où se dire, voilà, maintenant, comment on fait? Et puis, il y a toujours des tas de péripéties, c'est-à-dire que ça marche jamais du premier coup. C'est comme construire une maison, en fait. Ça paraît simple, et puis, il y a toujours des tas de
rencontres,
défis.
Des...
Voilà. Et, l'avantage, c'est qu'on travaille uniquement ou presque qu'avec des gens qui sont basés en France.
Oui.
Donc,
c'est important.
Ça permet d'aller sur place, et puis qui ont tous le même objectif, c'est que le client soit satisfait, même si c'est vraiment des projets très simples. Hein, on ne veut pas de avoir la meilleure qualité.
Vous ne recherchez
le meilleur
pas
résultat.
Forcément la difficulté.
Oh, oui. Voilà, c'est ça.
Et vous avez donc développé un réseau de partenaires choisis pour leur implication et qualité, leur savoir-faire.
Oui, beaucoup d'artisans français, parce que. L'artisanat est un petit peu, peut-être pas l'artisanat de luxe, mais enfin nous, la France, quand même, on a depuis Louis XVI, alors on peut en penser ce qu'on veut, hein, mais on est quand même, spécialisé un peu dans l'artisanat de luxe, des belles choses.
C'est vrai.
Ça peut être la haute couture, ça peut être la gastronomie, ça peut être, je sais pas, de la dentelle jusqu'aux les vêtements ou les meubles. On a toujours quand même été un petit peu
au-dessus du lot.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est dommage de pas en profiter pour le design. Et c'est vrai que parfois on a du mal à associer un artisanat qu'on voit un peu peut-être pour certains vieillots traditionnels avec du design que l'on pense obligatoirement moderne. Et il n'y a pas d'incompatibilité parce qu'en fait dans tout ce qu'on fait nous, on fait intervenir des artisans. Donc ça peut être des verriers, mais des verriers des souffleurs de verre. Ça peut être des ébénistes, des orfèvres, vous voyez, toutes ces personnes que l'on met dans des cases un petit peu oubliées, et nous on veut faire revivre ça, justement.
Toute cette partie artisanale.
C'est ça.
Donc aucun regret d'avoir quitté la biologie?
Non.
Merci infiniment Catherine.
Merci,
et Eric Duchesne, pour votre présentation. Sébastien Meurin, vous vouliez ajouter quelque chose à ce...
Moi je trouve que c'est extraordinaire, ces métiers d'art, effectivement moi je crois qu'il y a un génie français, et là vous travaillez avec des Français, vous travaillez des entreprises françaises, l'artisanat français, il y en a bien besoin puisque notre déficit commercial est quand même abyssal. Donc continuez comme ça, remportez plein de contrats. Mais moi j'ai toujours été sensible à la forêt, il y avait les étains de Paris. Je sais pas si ça vous parle, il y a quelques années. Usine importante. Et puis nous faisons les ateliers d'art de France. Ça fait plus de 30 ans également, deux fois par an. Et c'est vrai que on se rend compte qu'il y a un savoir-faire. Et la question, c'est de transmettre et de pouvoir vivre de ce savoir-faire. Et donc, heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui peuvent mettre en relation des artisans qui sont souvent un peu isolés. Puis, au final, la renommée, vous n'avez pas besoin de commerciaux parce que ce que vous faites, la qualité, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.
Ça. Merci Sébastien Morand. Philippe Piton, je crains que votre intervention sur l'intelligence artificielle soit très courte, si vous voulez nous en dire un mot.
Elle va être très courte en effet. En même temps, j'ai assez de temps pour reprendre tous les arguments qui ont été développés autour de ce plateau.
Allez-y, vous avez 5 minutes.
Alors 5 minutes, prenons 5 minutes et je laisserai la parole aussi parce que quand on parle d'intelligence artificielle, je suis plus sur la partie faire savoir que savoir-faire. J'ai à côté de moi Fabien Giroud qui lui, ingénieur centralien, est sur la partie savoir-faire. Et je rappelle que le faire savoir est normalement au service du savoir-faire et pas l'inverse. Et c'est important de se le rappeler. Il a été rappelé aussi autour de la table, de toute façon. Alors l'IA, pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse à l'IA, parce que comme Sébastien me rend le sénateur, et comme vous tous, en fait je fais de la politique, puisque je m'intéresse un petit peu au destin de l'autre, et notamment de l'autre lorsqu'il est français. J'ai entendu autour de ce plateau toujours la notion de temps. La notion de temps est toujours revenue, on parle de temps court, on parle de temps long. L'IA est en train de résoudre le problème, c'est-à-dire que l'IA est en train d'aborder les choses en apprenant à l'humain que le maître du temps, s'il en est, ça sera la machine. Voilà, c'est notre observation. Alors en France, on est vraiment très très mal équipé, hein, puisqu'on est plus réactif que proactif, et qu'on est plus promoteur des idées courtes et des visions courtes que des projections, et il y a autour de cette table des entrepreneurs, des gens qui privilégient l'action. Privilégier l'action, c'est reprendre la main sur le temps aussi, c'est important. Alors, pour prendre que l'exemple de Sébastien Meurant sur l'emploi, par exemple, le débat sur les retraites, je dirais pas que c'est le débat du 19e siècle, mais lorsqu'on parlera de ce débat dans 6 mois, et peut-être même avant, on s'apercevra que c'est un débat d'arrière-garde, c'est-à-dire qu'on est déjà 2-3 débats en retard, puisque on est en train de se poser la question de l'avenir des retraites, alors qu'on devrait se poser la question de l'avenir du travail, et de l'avenir de l'humain dans la relation au travail, puisque l'IA est en train d'écrire déjà aujourd'hui la relation de l'humain au travail. Alors l'IA, on en parle beaucoup, on fantasme, on parle de ChatGPT, donc quand les spécialistes du faire savoir s'y mettent, ça devient vite des mots, des concepts, et on n'y comprend plus grand chose. Mais il faut savoir que l'IA va probablement très très rapidement et dès aujourd'hui remplacer surtout les métiers qualifiés dans un premier temps. J'ai écouté dans cette chaîne sénatoriale Public Sénat Nicolas Bouzou, grand spécialiste d'un capitalisme espérant encore plus de liberté et de maîtrise de l'humain, nous expliquer que un radiologue va forcément subir l'impact de l'intelligence artificielle dans l'examen de ses clichés, et que finalement son métier allait changer. Bah, je réponds à Nicolas Bouzou que lorsqu'un radiologue n'en est plus qu'à taper le compte rendu d'un comparatif fait par l'IA et d'annoncer les résultats et de transmettre les résultats aux patients, ce n'est plus un radiologue, c'est un assistant de radiologue. Voilà. Donc il faut arrêter de se voiler à la face. Il y a un déni qui est très français et que j'observe incessamment et qui est très très inquiétant, c'est que on observe ce qu'on a envie d'observer, et finalement on perd la main sur l'action et sur le futur qu'on voudrait donner. Alors, pour reprendre aussi tous les éléments, monsieur de la spécialiste de la sécurité, je pense qu'il sait que sur la sécurité, nous avons le même problème. Hein. Nous avons un débat de retard. Nous sommes quand même en France en train de parler de sécurité, armés de téléphones Huawei, sur des Google et sur des Microsoft. Autant dire que pour ce qui est de la sécurité,
d'en parler. Ça, c'est votre grand combat, hein, Philippe.
Mais, écoutez, il faut mon grand combat, c'est la cohérence, oui, et l'intégrité. Et lorsqu'on parle de sécurité et qu'on veut mettre confidentiellement une information sensible sur la sécurité, je ne conseille pas d'utiliser un téléphone Huawei, je ne conseille pas d'utiliser Google, je ne conseille pas d'utiliser Microsoft. Alors je ne sais pas si c'est la naïveté française, si c'est la beauté française et sa naïveté, mais je crois qu'il y a des forces en France, et je finirai donc, puisque j'ai que 5 minutes, vous me donnerez le timing, et je voudrais que Fabien Giraud prenne la parole. Les entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui, qui travaillent sur la dimension artisan, artistique, Je dirais que c'est l'axe évident que la France doit prendre, puisque c'est l'axe sur lequel l'IA va opérer le plus tardivement possible. Et on souhaite le vraiment le plus tardivement possible. Nous, nous avons orienté nos travaux et nos recherches et nos observations sur l'art lorsqu'on a commencé à travailler sur l'IA. Voilà. Parce que c'est certainement le dernier espace qui sera consenti à l'humain dans sa dimension créative. Voilà. Je laisse la parole à Fabien juste un instant pour vérifier que je n'ai pas dit de bêtises sur l'IA.
Oui, Fabien, désolé, vous avez 2 minutes, vous.
2 minutes, alors j'ai encore moins que Philippe pour m'exprimer. Bon, de quoi repartir, en fait, de cette question de...
Mais vous reviendrez tous les deux pour en parler plus longuement.
D'accord.
On s'organisera mieux.
Déjà, je partage le point de vue de Philippe, qui est de dire c'est les métiers les plus qualifiés qui vont être touchés en premier, en fait, parce que tout à l'heure c'était l'exemple du radiologue, mais les exemples de la créativité, de la communication, puisque j'ai entendu parler du fait de faire de la, enfin. Là, on parlait plus des métiers d'art, mais derrière ça, moi, aujourd'hui, j'ai un client qui est dans le luxe, un peu ce que j'entendais des choses que j'entends chez ce client, et en fait, je me rends compte que les outils qu'ils utilisent tous les jours pour communiquer, pour s'exprimer, pour traduire des choses, bah, tout ça, c'est de l'IA qui le fait, en fait. Aujourd'hui, ChatGPT, on en parle beaucoup pour l'école et la transformation de ce qui se passe dans l'école. J'ai en l'occurrence un ami qui est directeur de recherche en fait dans une grande école, et ce qu'il me disait, c'est que aujourd'hui la première des questions, c'est de savoir comment on va vraiment établir le jugement, l'évaluation d'un élève, puisque tout est fait avec un système informatique, avec ChatGPT grosso modo. Mm-hmm. Et donc c'est une vraie question. Alors on revient aux fondamentaux, c'est est-ce que l'élève a bien compris ce qui se passe, est-ce qu'il en voit la perspective, et de voir est-ce qu'il a appris quelque chose en fait dans sa formation, en fait. Donc ça, on résout le problème. Mais de manière concrète, tous les jours, une traduction ou la manière de bien exprimer une publicité, ou de bien juger sur de bien amener les bonnes choses à des clients pour qu'ils achètent parce qu'ils ont envie d'acheter. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT qui fait ça. C'est-à-dire qui organise la partie commerciale des sociétés, et c'est utilisé. C'est pas quelque chose qui est laissé de côté, en fait. Donc ça a vraiment un impact très très fort sur notre économie aujourd'hui. C'est-à-dire des métiers qui sont des métiers de communication, eux aussi, ils sont touchés directement. Ce qui va se produire après, par la suite, c'est qu'il y a d'autres... Alors, je vais laisser la parole.
Je voudrais vous poser une question, Fabien. Oui. ChatGPT. On rentre des mots-clés, hein, oui. Et ça nous... Voilà. Ouais. Est-ce qu'on risque pas aussi d'avoir une uniformisation de tout ce qui être traduit?
Aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle qui existent sont au nombre de quelques-uns, en fait. Et les grands acteurs, on reparle des mêmes, hein. Derrière, c'est OpenAI, donc c'est Elon Musk qui est à la base de ça. C'est Microsoft, en fait, qui a payé le développement d'OpenAI globalement. Ensuite, il y a des choses qui sont faites par Google et des choses qui sont faites par Facebook. Après, il y a d'autres éléments qu'on connaît pas très bien. C'est ce qui se passe en Chine. On n'en parle pas beaucoup. À une époque, on en parlait beaucoup plus, mais là, c'est un peu terminé. Mais ça, l'uniformisation, elle est claire, en fait. C'est-à-dire que le business model aujourd'hui de ChatGPT, c'est de vous proposer un modèle qui va faire l'interface, en fait, le sous-jacent plutôt, et vous allez faire l'interface des services qui sont proposés. Mais derrière, c'est bien eux qui vont créer un nouveau monopole, un peu comme ce que vous avez connu avec Amazon, ce qui est un monopole de l'interaction, de l'intermédiation de vente, voilà. Et puis le monopole qu'on a vu sur la partie actualité, par exemple, avec Google ou sur les moteurs de recherche, c'est une monopolisation, en fait, de la connaissance, du partage de la connaissance et des prises de décision. Sans rentrer dans tout ça, aujourd'hui, vous avez un autre monopole qui est attaqué, c'est celui de la créativité. On parlait de l'art tout à l'heure. Alors, la raison pour laquelle on s'est lancé dans la partie artistique, c'est que on avait l'impression que ce qui était artistique, artistique, la créativité, c'était ce qui était le dernier bastion humain, en fait, en quelque sorte. Et ben, je suis désolé de vous dire que celui-là, c'est déjà attaqué, en fait. Voilà. Et après, la question, alors, on va commencer sur une, enfin, on va terminer sur une note qui est peut-être pas celle qu'on voudrait voir arriver, mais qui est un peu le constat de Sébastien Meurant tout à l'heure sur l'état de la France. On pourrait maintenant se poser la question du constat sur l'état du monde ou sur l'état de l'humain. Parce que c'est une vraie, c'est un vrai risque. Alors, je pèse mes mots parce que d'un point de vue mathématique, il y a des choses aujourd'hui qui permettent pas de dire que l'IA va prendre son indépendance, mais c'est un vrai risque aujourd'hui sur l'humanité, en fait, l'intelligence oui. artificielle.
Merci Fabien. Désolé, je suis obligée de vous couper la parole parce que on a bien compris que c'était un sujet très important dont il faut parler plus longuement et donc voilà, je m'engage à vous faire revenir sur ce sujet à la rentrée. Sébastien Meurant, juste un mot avant de se quitter, quelques secondes.
Eh bien, mes remerciements, biologiquement de la Pentecôte, à l'espérance.
Merci.
Tout le monde, je de la joie et du bonheur dans chacun, pour la vie de chacun d'entre nous.
Merci infiniment. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous pour votre fidélité. Comme à chaque émission, cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouver son podcast sur idfm98.fr. À 11h, Christophe Gravreau vous présentera son émission Balade musicale. Vendredi prochain, pas d'émission en direct, mais une diffusion car je serai à l'Université des Mers du Val d'Oise. On se retrouve donc mardi pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.